aussi. Alors, juste vous rappeler que ces parachas-là, elles commencent par quelque chose qui est en réalité directement, très directement lié à ce qu'on a vu à la fin de la paracha dernière. Parce que là, qui s'était passé dans la paracha dernière, c'est que Moshe Rabbeinu s'était plaint, il avait même un peu accusé Hachem de l'avoir envoyé, et que son intervention a eu pour conséquence d'aggraver la situation. Parce que comme Paro a dit, votre Dieu, là, je ne le connais pas et je ne renverrai pas les bénis d'Israël. Et d'ailleurs, s'ils ont comme ça du temps pour réfléchir, à aller servir leur Dieu, etc., c'est qu'ils ont trop de temps. Donc, on va leur donner un peu plus de travail, de telle sorte qu'il n'y ait plus aucun. Alors là, il y a une chose qui est quand même très importante, c'est que, donc, comme vous savez, ils faisaient des briques et on leur fournissait la paille, la matière. Parodie, on ne fournit plus la paille. Comme ils étaient déjà à la limite de ce qu'ils pouvaient faire, quand il a fallu aller, comment ça se fait, vous ne donnez pas la quantité de briques qu'on vous a presque demandé de fournir. Alors les responsables ont dit, ils ne peuvent pas plus, ce n'est pas possible. Ce qu'il leur est demandé est impossible. Alors, Paro voulait rien savoir, et donc, bien, il faut les punir et les frapper, etc. Et normalement, ce qui était prévu, c'est que les responsables allaient frapper les ouvriers qui n'avaient pas produit assez de briques. Mais les responsables en question, ils ont décidé que ils n'allaient pas transmettre en quelque sorte la sanction, ils allaient la prendre sur eux. Et c'est eux se sont fait battre au nom des autres. Ils ont accepté de prendre la responsabilité par empathie ou parce qu'ils comprenaient, etc. Et cette démarche d'être capable d'être responsable et d'avoir de l'empathie, etc., ça les a qualifiés pour la situation suivante. Bien plus tard, Moshe Rabbeinu va dire qu'il a besoin d'aide. Hachem lui dira, OK, je vais te donner les fameux 70 ceux qui vont t'aider. Eh bien, ces gens-là, les 70, ce sont les responsables en question. Ces gens-là qui ont montré qu'ils avaient le sens des responsabilités pour leurs frères et qui étaient capables d'empathie, etc., qui ont accepté de payer de leur personne pour ça, ce sont ces gens-là qui ont été choisis pour aider Moshe Rabbeinu à gouverner, à guider le peuple. Donc on voit ici l'importance, voilà, c'est la suite de la réflexion et de l'attitude de gens qui étaient en poste, probablement qu'ils ont été nommés, on ne sait pas par qui, mais en tout cas, ils ont pris cette responsabilité et ils ont accepté de payer de leur personne pour éviter aux autres de souffrir. OK. Alors, l'aggravation de la situation, ça a entraîné Moshe Rabbeinu à accusé Hachem, il lui a dit, pourquoi est-ce que tu m'as envoyé? Tu m'as envoyé, la situation s'est aggravée du fait de mon intervention, et toi, tu les as pas sauvés. Alors, la paracha de Vaera, c'est la réponse d'Hachem. Il commence par ça. Vaedaber Elohim el Moshe. Alors, vous voyez, dans ces quatre mots-là, il y a Vaïdaber, qui est une parole dure, par opposition à un Vaïomer. Il y a Elohim, qui est la Midat Hadin, qui parle à Moshe. C'est-à-dire, C'est Hachem, en quelque sorte, qui parle durement à Moshe. C'est-à-dire que, si on peut dire comme ça, Hachem n'a pas du tout apprécié l'accusation de Moshe Rabbeinu. Et il lui dit, mais tout de suite, bon, il y a une notion de reproche, etc., mais tout de suite, c'est Vayomer. C'est tout de suite une parole douce, déjà. Quand il lui explique, c'est déjà, on a passé de Elohim à Hachem. Le tétragramme, c'est le Rachamim, c'est la parole douce. Et puis, Vayomer, et il lui dit, Ani Hachem, je suis Hachem. Ça, c'est l'entrée en matière. Alors, il faut qu'on comprenne, qu'est-ce que ça veut dire, je suis Hachem? Qu'est-ce qu'il a voulu dire à Moshe quand il lui dit, je suis Hachem? Alors, vous regardez dans Rashi. Alors, Rashi, comment? D'abord, je n'ai pas amené le Rashi sur. C'est Elohim qui est Medaber. Rashi a dit Diber ito mishpat. Hachem lui a parlé sur un ton de juge, quoi, en quelque sorte. Al Sheikshal Daber, parce qu'il a parlé lui-même, Moshe Rabbeinu, durement. Velomar lama areota la amazé. Je sais pas, Moshe Rabbeinu l'a dit, pourquoi est-ce que tu as fait du mal à ce peuple? C'est une grosse accusation, là. Alors, Vayomer Elav, Ani Hachem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Ani Hachem? C'est important parce que, comme dit Rashi, ça va revenir très souvent, cette formule, Ani Hachem. C'est-à-dire, il faut le comprendre comme ça. Neeman le shalem sachar tov lamit alchim le fanai. Neeman, ça veut dire on peut me faire confiance. Quand il dit Ani Hachem, ça veut dire je suis digne de confiance en quelque sorte. On peut me faire confiance que quoi? Que je donnerai un salaire, un bon salaire à ceux qui marchent devant moi. Déjà, ici, quand vous entendez Me'alchim le Fanaï, à quoi vous pensez? Hein? Avraham, oui. Avraham, c'est celui qui est Me'alech Lifnei Hashem, c'est Avraham. Par opposition à Noach, qui marchait avec Hashem, c'est-à-dire, Hashem lui tient la main, il avance, Noach. Avraham, il invente, il marche devant. Il invente, bien entendu, il invente un chemin en vérifiant au fur et à mesure qu'il ne s'est pas éloigné de ce à quoi Hachem a été d'accord. Il fait un pas, Hachem est d'accord, ok, un deuxième pas, est-ce qu'il est toujours d'accord? Mais c'est ça, mais Alchim le Fanaï. C'est-à-dire, ils avancent. Mais toujours par référence à moi. Et donc, quand il y a quelqu'un comme Avraham qui invente, alors, où est-ce qu'on voit qu'Avraham invente? Une situation très intéressante où il invente le grand exemple, me semble-t-il, c'est quand Avraham va, pour délivrer Lot, il va faire la guerre pendant la nuit. C'était pas l'habitude. Normalement, on faisait pas la guerre pendant la nuit. Visiblement, ils avaient pas les bons générateurs et tout, donc il y a des problèmes. Donc, pendant la nuit, on faisait pas la guerre. Et donc, Avraham, qui va faire la guerre contre les rois pour aller délivrer son neveu et beau-frère Lot. C'est au courant de la guerre des cinq rois contre les quatre rois, enfin les quatre contre les cinq d'ailleurs. Et Avraham dit, mais si je ne fais pas la guerre dans la nuit, Lot va souffrir une nuit de plus. Et donc il décide de faire la guerre de nuit. Donc il a changé la nuit en jour, c'est-à-dire il s'est conduit dans la nuit comme si c'était plein jour. Et comme vous savez, Cette nuit-là, c'était la nuit de... Vous connaissez la date de la nuit en question? C'est une date que tout le monde connaît. Pas regarder ailleurs, hein. C'est dans la nuit du 14 au 15. De quel mois? La nuit du 14 au 15. De quel mois est-ce que ça peut bien être? C'est le mois de
Nissan.
Nissan, évidemment. C'est la nuit de Pessah, la nuit de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'Hachem a dit à Abraham, toi, pour éviter à Lot de souffrir, tu as changé la nuit en jour. Et ce que Abraham a fait, ça s'est fait dans la première moitié de la nuit. Alors Hachem a dit, moi, je ferai pour tes descendants la même chose. Je changerai la nuit en jour. C'est pour ça que dans cette fameuse nuit du 14 au 15, à partir de Hatzot ou Moshe où Hashem a frappé les premiers-nés égyptiens, et donc les Bnei Israël vont sortir d'Égypte. On y voyait, c'était la nuit, mais on y voyait comme en plein jour. Donc là, c'est cette situation très étrange où c'est Hashem qui a pris modèle sur Abraham. C'est Abraham qui a inventé quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'il a montré que la souffrance de quelqu'un, et si on pouvait l'éviter, même au prix de changer quasiment, c'est presque les lois de la nature, quoi. Parce que quand tu fais la guerre en pleine nuit, on n'y voit rien. Et donc c'est tellement important. Et ça, c'est l'invention d'Abraham Avinu, la sensibilité d'Abraham Avinu à la souffrance éventuelle de Lot. Donc ça a valu un changement pour que les Bnei Israël sentent tout de suite qu'ils sont libérés, puisque avant de sortir complètement d'Égypte, il fait déjà jour, il fait jour en pleine nuit. Donc Hachem dit, on peut me faire confiance. Je donnerai un bon salaire à ceux qui marchent devant moi. Et il continue et il dit à Abraham, il dit à Moshe, Lo lechinam shlachticha. Je ne t'ai pas envoyé en vain. Ki im lekayem dvarai shedibarti la'avot harishonim. T'es envoyé pour accomplir ce que j'ai dit au Avot Harishonim. J'ai jamais vraiment bien compris cette expression d'Avot Harishonim parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'Avot Aharonim. D'accord, on a les Nevi'im Rishonim et les Nevi'im Aharonim, mais qu'est-ce que ça veut dire les Avot? Avot Harishonim, comme si Rashi voulait dire ici. Pas si c'est vraiment le langage de, c'est du Midrash que dit Rashi, mais est-ce que dans cette expression Avot HaRishonim, est-ce qu'elle est dans le Midrash? Je ne sais pas vérifier en vérité. En tout cas, c'est comme ça, j'ai dit quelque chose. C'est intéressant parce que Hachem, ici, donc, enfin, disons, Rashi et le Chachamim, ils ne disent pas le Kayem. Dvarai, j'ai promis, j'ai dit, dibarti, j'ai parlé. C'est étonnant parce que, a priori, c'est une promesse qui a été faite. Pourquoi on dit pas, pourquoi il dit j'ai parlé? Accomplir ce que j'ai parlé, ce que j'ai dit, et pas ce que j'ai promis, alors que c'était une promesse. L'avot harishonim, voilà. Donc en vérité, on est entré dans la phase de la réalisation des paroles Hachem a dit à Abraham Avinu, puis ensuite aussi répété aux autres Yitzhak et Yaakov. C'est quoi la... De quoi est-ce qu'il a parlé au Avot? Principalement à Abraham Avinu, dans Brit Ben Abtarim, il lui a dit « Ki ger yehi zaracha be'eretz lo lahem »« Ta descendance, ils seront étrangers dans un pays qui n'est pas le leur, et ils vont être réduits en esclavage, ils vont souffrir, mais il y a une deuxième partie, mais je les sortirai de là-bas et ils sortiront avec un grand butin. » Alors pour l'instant, on ne s'occupe pas encore de, s'occupe pas du butin, c'est un sujet, on verra. Mais bon, Hachem dit, ils vont sortir. Et donc, l'esclavage, ils l'ont vécu. Et maintenant, il y a la libération. Et on est dans la phase de libération. Et alors Hachem dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit, alors d'abord, Rashi nous dit que au Bilshon Hazeh, Matsinu Sheunidrash Bekamam. C'est-à-dire, le Ani Hachem, on va l'interpréter très souvent de cette même manière. Neeman, on peut me faire confiance, je donne un salaire, un bon salaire, et il y a aussi, hein, on peut me faire confiance, je sanctionne ceux qui transgressent, je les sanctionnerai. Donc, Ani Hachem, Neeman, Leipara, que chez Omer, Etzel, Onesh. La même chose, on peut faire confiance que je ferai payer ceux qui méritent une sanction. Par exemple, dans le passage qui dit, Hilalta et Shemelokecha ani Hachem, d'accord, et tu as profané le nom de ton Dieu, je suis Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire ani Hachem à la fin de la phrase? Tu vas payer. On peut me faire confiance? Tu vas payer. Et il le dit aussi, Bekiyuma mitzvot, quand quelqu'un fait une mitzvah, il y aura un salaire, Kugon, Ushmartem, Mitzvotai, Vansitem, Otam, Ani Hachem. Bon, vous faites les mitzvot, Ani Hachem, vous aurez un salaire, un bon salaire. Donc, Neeman veut dire, enfin, Neeman liten sahar. Ani Hachem, ça veut dire, on peut me faire confiance. Il y aura un salaire, positif ou négatif, mais il y aura un salaire. Et alors maintenant, dans le passouk suivant, on revient sur le texte lui-même. Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, va era. Bon, ça veut dire, je me suis donné à voir, El Abraham, El Yitzhak, El Yaakov, Bekel Shakai. Shmi Hashem, lo nodati lahem. Alors ici, c'est quelque chose de très important. Hashem dit, les avots, ils m'ont connu sous un certain nom. Et ils ne m'ont pas connu sous l'autre nom. Un nom, c'est Shakai. Ça, c'est le nom sous lequel les Avot ont connu Hachem. Et l'autre nom, c'est le tétragramme, c'est Yud Kevav Ke. C'est le nom sous lequel ils ne l'ont pas connu. Mais qui est le nom qu'Hachem va utiliser à partir de maintenant? Alors, c'est quoi ce nom de Shakai? Alors, Rachidi, je me suis montré au Avot de quel Shakai, Iftartim Aftachot. J'aurais promis des promesses, littéralement, ouais. C'est la redondance ici. Ubekulan Amartilaem, Ani Kel Shakai. Dans ses promesses, je leur ai dit Ani Kel Shakai. Je suis Kel Shakai. Et donc, Kel Shakai, c'est un nom divin qui promet. Mais eux, les Avot, ils n'ont pas vu le début de l'accomplissement de la réalisation de ces promesses. C'est ça que veut dire, mais mon nom, tétragramme, ils ne l'ont pas connu. Shmi Hashem lo nodati lahem. Lo hodati en ktivkan. C'est pas, je leur ai pas montré ce nom-là. Lo nodati. Lo nikarti lahem bemidat amituti. Amitut sheli. Shealea nikrashmi Hashem. Je ne leur ai pas montré ma mida de vérité. C'est-à-dire que puisque j'ai promis, évidemment, je tiens, et ils n'ont pas vu que je tenais mes promesses. Donc, ils ne m'ont pas connu sous ce nom du tétragramme. C'est Neeman, Ani Hashem veut dire Neeman, Lahamet Dvarai. On peut me faire confiance, je rendrai vraies mes paroles, c'est-à-dire, je me suis engagé et je vais tenir ma parole. J'arrive tard, Velokiyamti. Mais eux, je leur ai promis, mais je ne l'ai pas du tout accompli. Ils ne l'ont pas vu encore. Et Vegam, Akimoti et Briti, Tam. Et Rachid dit, j'ai aussi. Gam que lahem de quel chakraï, quand je me suis montré à eux sous la forme, enfin, fait connaître en tant que chakraï, itsavti ve'amati briti beni benechem, benem, pardon. J'ai fait une alliance avec eux, toujours avec ce nom-là. C'était une alliance avec des promesses. La promesse, elle a été faite dans le Brit Ben Abetarim, dans l'alliance entre les morceaux qui a été faite entre Hachem et Avraham Avinu. Ce que j'ai promis, c'est la tête, la et Eretz Kenaan. Alors, il dit, où il l'a dit à Avraham, Yitzhak, Yaakov. Ça aussi, je dois l'accomplir. C'est promis. C'est la raison pour laquelle le Shamati, le Gamani Shamati et Nakat Bnei Israël. J'ai entendu les plaintes des Bnei Israël. Pourquoi? Parce que, pourquoi je les ai entendues? Parce que j'avais promis. On a l'impression, les plaintes elles-mêmes, elles n'auraient pas eu d'effet. Si je n'avais pas promis, ben peut-être que je n'aurais pas écouté leurs plaintes. Et la raison pour laquelle j'écoute leurs plaintes, c'est parce que ça va dans le sens de ma promesse, en quelque sorte. Donc je me suis souvenu de, parce que je me suis souvenu de mon alliance. J'ai dit quand je leur ai annoncé l'exil et l'esclavage, j'avais dit aussi, et Tagoy Asher Yavodou Dan Anochi, c'est-à-dire le peuple qui les a asservis, je vais le juger, ils vont payer pour cela. La reine, c'est-à-dire d'après Otash Voa, à cause de ça, parce que je me suis engagé, j'ai fait le serment. Alors, Emor l'Ibné Israël, Ani Hachem. Va leur dire, voilà, c'est la Hanaga maintenant, c'est la Hanaga de Ani Hachem, et Tu peux leur dire, je vais les sortir d'Égypte, je vais les libérer, etc. Les quatre lechonotes qui nous valent de boire quatre coupes de vin le soir du Seder. On a quelque chose ici de très important. C'est ici, on a deux noms divins. En vérité, il y en a plus, puisque ça a commencé par Elohim. Et disons ici, ces deux noms divins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on voit très clairement ce que c'est que deux noms divins. Vous voyez, il y a un nom qui s'appelle Shakai. C'est le nom avec lequel, qui indique que Hachem fait des promesses. Et il y a un nom qui est tétragramme. C'est un nom qui dit beaucoup de choses, mais qui en particulier dit, Hachem réalise les promesses. Il donne du salaire. Quand il a dit qu'il y aurait du salaire, il réalise ses promesses. Et donc là, on comprend ce que sont les noms divins. Il y a énormément de noms divins dans la Torah. Alors certains disent, bah, ces noms divins, ça montre qu'en vérité, ils étaient polythéistes, etc. Ici, on a l'enseignement qui nous dit, voilà, comment on résout le problème des noms divins? C'est un problème. Comment il peut avoir plusieurs noms? Nous, on pense à Hachem et Echad. Et alors, pourquoi il a plusieurs noms si... Ça veut dire que les noms d'Hachem, ce ne sont pas des noms. Ça ne nous dit rien sur Hachem pour lui-même. Parce qu'on peut de toute manière rien dire sur Hachem pour lui-même. Par contre, ce sur quoi on peut, oui, dire quelque chose, c'est sur la façon dont Hachem gouverne le monde. Et là, on voit très clairement qu'Hachem gouverne le monde de façon différente selon les époques. Et l'utilisation de certains noms à certains moments, ça vient nous dire, voilà, dans cette phase-là, si tu veux comprendre ce qui se joue, il faut que tu comprennes qu'on est dans la phase réalisation. Et avant, on était dans la phase promesse. Donc c'est ça les noms divins. On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il y ait une phase promesse? Pourquoi Hachem doit promettre et tenir? Hachem n'a qu'à le faire directement. Pourquoi? Est-ce que c'est important de promettre? On a quelque chose d'un peu analogue. Vous savez que Yocheved, la mère de Moshe, Aaron et Myriam, ses enfants, elle les a eus très tard. Beaucoup plus tard que Sarah et Mail. Yocheved, quand elle a Moshe, elle a donné naissance à Moshe, elle a 130 ans. Donc, Sarah et Mail, à côté d'elle, c'était une petite jeunesse, quoi. Or, nous, on fait tout un plat de la naissance de Yitzhak, alors que Sarah est âgée, et et personne ne parle du fait que Yocheved, elle a eu un enfant à 130 ans. C'est pas que l'enfant, il n'avait pas d'importance, excusez du peu, quoi. C'est Moshe, mais en fait, elle a eu auparavant Aaron et Myriam, mais c'était tout aussi vieille, quoi. Aaron et Moshe, ils n'ont pas 50 ans de différence. Alors, on explique que la Torah ne parle de la naissance exceptionnelle que parce que la naissance chez Sarah, elle a été annoncée et qu'ensuite ça s'est réalisé. La naissance chez Yocheved n'a pas été annoncée. Et donc, ça veut dire, en tout cas, dans disons, pour le dire grossièrement, dans le monde des miracles, les miracles dont on parle, qui ont l'air d'avoir beaucoup d'importance, ce sont les miracles annoncés. Les miracles tout aussi grands, bien plus grands, mais qui n'ont pas été annoncés, ben, ne sont pas, c'est comme si on n'en tenait pas vraiment compte, quoi. Donc c'est un peu du même ordre ici. C'est comme si la sortie d'Égypte, si elle avait eu lieu sans avoir été annoncée, elle n'aurait pas eu du tout la même dimension. On n'en aurait peut-être même pas parlé vraiment. Alors il s'agit d'essayer de comprendre un peu quel est l'intérêt de cette annonce. Alors peut-être vous avez des idées, comme ça on ferait comme si là le chiour est un chiour avec participation d'un seul type qui parle tout le temps. J'écoute, vous pouvez ouvrir vos micros. Il y en a peut-être un qui va se lancer, non?
Est-ce qu'une annonce annoncée peut indiquer quelque chose qui va être vu à très long terme?
Désolé, c'était pas assez clair, j'ai pas compris, j'ai pas bien
Euh,
entendu.
Monsieur Lupescu, hein. Alors, je voulais dire que une annonce qui est annoncée indique peut-être quelque chose qui va être vu à très long terme.
Pardon, pardon. Oui, mais qu'est-ce qu'on gagne avec ce décalage? Ce terme long. Vous voyez par exemple que ce qu'on a dit sur Ani Hachem, ça implique la notion de promesse. Hachem dit, on peut me faire confiance. Mais on a besoin de confiance quand les choses se réalisent pas immédiatement. Les choses sont dites, puis après, ben, est-ce que ça se réalise ou pas? Donc ça veut dire, c'est comme si, au fond, le nom divin qui est utilisé ici, il va de pair avec ce que vous avez appelé le décalage de temps long, le fait que c'est justement décalé et que ça fabrique, ça oblige à la confiance. C'est-à-dire, c'est ça le problème. Quand les choses sont annoncées, donc on entre dans le domaine de la confiance. Or, finalement, ce qu'Hachem veut, c'est qu'on lui fasse confiance. Que Hachem soit tout-puissant, c'est clair. D'accord? Si Hachem avait voulu qu'on soit pas esclave, on n'aurait pas été. Mais, voilà, l'important de cette situation, c'est qu'en réalité, c'est presque essentiel à la condition divine, presque. Ça fait partie de la définition d'Hachem. Il veut qu'on lui fasse confiance. Et donc, ça implique qu'il va dire des choses, et puis ensuite, elles vont se réaliser. Et le problème, c'est, ben, ça met du temps à se réaliser, et tout notre problème, c'est le problème de la confiance. C'est-à-dire, c'est pour construire la relation avec Hachem, qui est une relation de confiance. C'est pas d'y croire ou pas croire, c'est un problème, est-ce qu'on fait confiance ou pas? Okay. Je pense que c'est. Il va bien prendre d'autres explications. En tout cas, c'est celle que je préfère pour l'instant. Pas pour le moment. Et c'est ça l'idée, c'est que, voilà, il y a eu une phase où effectivement, on a engrangé, si on peut parler comme ça, des promesses. Et en vérité, toute notre relation avec Hachem, c'est une relation de confiance qu'on construit. Tout le inyan de la réussite des temps messianiques, etc. Tout ça, c'est un problème de confiance. C'est-à-dire, à la limite, que ça se réalise ou pas, c'est pas tellement important. L'important, c'est qu'on fasse confiance. On peut lui faire confiance. Et je ne sais pas quand ça va se réaliser. L'éloge qui est faite ici des Avot, c'est que eux, ils n'ont jamais vu la réalisation, ça n'a pas posé de problème. Ils étaient dans un rapport de confiance avec Hachem. Hachem m'a dit que ça sera comme ça, ok, ça sera comme ça. Quand? C'est aussi une des raisons pour lesquelles Hachem n'a pas voulu que Yaakov Avinu dévoile le Ketz. Hachem ne voulait pas qu'on dise la date exacte, enfin, de le moment où effectivement les temps messianiques arriveront. Ça viendra. Et en plus, ça viendra quand on l'attend pas. C'est-à-dire, c'est pas du tout, la confiance n'est pas un processus, c'est pas la confiance dans un processus dont on voit l'évolution et dont on peut extrapoler que, ah ouais, on a déjà fait ça, bon, ça va être, voilà. Et au point que Rambam dit, bon, dire des choses sur les gens qui essayent de deviner quand est-ce que le quai aura lieu. Et donc Hachem dit à Moshe Rabbeinu, eux, ils m'ont fait confiance. Et toi, sur ce petit laps de temps, tu m'as pas fait confiance. J'ai dit que je sortirais. J'ai rien dit sur le chemin. Le chemin n'est pas celui que toi tu aurais souhaité. Mais tu devais me faire confiance. C'est parce qu'il y a ici un manque de confiance. On peut comprendre pourquoi Hachem va sanctionner Moshe Rabbeinu si fortement. Il lui dit, tu n'as pas fait confiance en quelque sorte, tu n'entreras pas en Eretz Israël. Boum. Bon, déjà aussi, quand je t'ai demandé de faire quelque chose, bon, alors là, Moshe Rabbeinu ne voulait pas. Il n'était pas d'accord avec Hachem. Ça peut encore s'entendre, mais si je te dis qu'il faut le faire, tu dois me faire confiance.
Est-ce que la notion de confiance, elle n'est pas plus difficile dans la phase de réalisation que dans la phase de promesse? Et quand dans la phase de réalisation, c'est les débuts, quoi, donc de la mise en application de la promesse, est-ce que ce n'est pas plus difficile de voir d'intégrer cette confiance, puisque si ça ne démarre pas comme on veut, alors que dans une phase de promesse, il y a un futur. Je n'aurai jamais le début, donc.
Mais la confiance, elle est sur ce qu'est-ce qu'Hachem a dit. Il n'a pas dit le chemin sera un chemin couvert de pétales de rose. On n'a rien dit sur le chemin, et même ce qui est annoncé, ce qui sera difficile, puisqu'ils vont être réduits en esclavage, etc. Donc, mais là aussi, je vais vous mettre dans un état. Vous pourriez penser que ben, c'est tout, rien va se réaliser. On est en train de se faire complètement détruire par Paro qui veut nous tuer, quoi, qui veut empêcher le clan d'Israël de sortir de. C'est-à-dire, il veut pas nous laisser sortir de l'état d'esclave. C'est-à-dire, il veut pas que nous soyons des hommes libres. Donc, ça veut dire, on va pas vraiment exister. Parce que c'est ce qu'on pouvait penser. Quand ça va tellement mal. Non, Hachem veut que même dans cette situation, il y ait suffisamment de confiance. Et bon, la confiance, elle n'était pas terrible. D'accord? Puisque le résultat des courses, c'est quand même un cinquième et un cinquième seulement du peuple qui accepte de faire confiance à Hachem. Mais c'était vraiment de la confiance. Parce qu'Hachem le dit lui-même, comme il le dit, comme c'est marqué dans le Navi Irmiya, tu m'as fait confiance, l'Erter Harai Bamidbar, tu m'as suivi dans le désert, dans un endroit où. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le désert si sinon mourir? On est fichu. Vous m'avez suivi dans le désert. C'est-à-dire, à vue humaine, la sortie d'Égypte, c'était un suicide. Au lieu d'attendre que les Égyptiens nous assimilent complètement ou nous tuent, de travail, etc., ben on va aller mourir tranquillement dans le désert, quoi. 4 cinquièmes du peuple, 80%, on dit non, on n'y va pas. Donc tout est un problème de construction de la confiance. Donc cette première phase, avec une anaga, c'est-à-dire une façon de gouverner le monde qui correspond au nom divin Shakai. Alors vous me direz, mais moi j'ai regardé dans Bereshit, chez quel Shakai on trouve un petit peu, mais pas beaucoup, et on parle d'Hachem dans Bereshit. Alors, il faut savoir, là, mon cher Rabbeinu, dans les autres Sfarim, Moshe Rabbeinu était présent. C'est la Torah, c'est à partir de Bereshit, c'est la prophétie de Moshe et la névoie de Moshe. Hachem lui parle à lui, Moshe, et à travers lui, grâce à lui, à nous, à Israël. C'est la caractéristique de la névoie. Mais qu'est-ce qu'il en est de Bereshit? Il n'y était pas, Moshe. Comment il a pu écrire Bereshit? Hachem lui a dit ce qu'il en était, et donc ça a été écrit avec, en gros, le nom divin en vigueur au moment de l'écriture, si on peut parler comme ça. Hachem lui a dit les choses, et il n'a pas marqué à chaque fois, normalement d'après ça. Dans le Sefer Bereshit, il devrait y avoir seulement quel Shakai. Vaïdaber quel Shakai, etc. Vaïomer quel Shakai, etc. C'est pas marqué comme ça. C'est écrit avec Hachem parce que c'est le nom d'Hachem à partir du moment où ils vont sortir de l'Égypte, recevoir la Torah. Désormais, c'est ça le nom divin parce que ça indique la phase dans laquelle on est. Dans cette phase-là, on a écrit, enfin, mon cher Abinou, sur la dictée d'Hachem, il a écrit avec le nom d'Hachem, bien qu'à ce moment-là, Hachem n'ait pas parlé à Abraham, Israël et Yaakov avec ce nom divin-là. Donc, on est dans une nouvelle phase. Et Hachem recommence avec des promesses. Voilà, maintenant, on est entré dans la phase de réalisation. C'est quoi la réalisation? C'est de nouveau lui faire confiance. Et pourquoi est-ce que à ce moment-là, il s'appelle plus Hachem? Pourquoi il s'appelle pas Kel Shakai à ce moment-là? Parce qu'il fait des promesses. D'accord? Tu vas aller vers les Bnei Israël, tu vas leur dire au nom d'Hachem, je vais vous sortir de là. Mais Il va y avoir effectivement des manifestations d'Hachem et tout ce que vous voulez, mais il y aura au moins pendant un an les Makot. Donc pendant un an, ils sont encore en Égypte. C'est vrai qu'ils ne travailleront plus pour Pharaon. Mais formellement, jusqu'à l'expulsion complète, ils auront un statut d'esclave. Ils sont esclaves de Pharaon. La preuve, c'est qu'au moment où Hachem libère vraiment les Bnei Israël, c'est-à-dire le soir du 14 au 15, là, dans cette nuit-là, Pharaon dit à Moshe Rabbeinu, alors partez maintenant, parce qu'il y a tellement de morts que partez. Et Moshe Rabbeinu dit, non, un instant, on ne part pas comme ça. On ne va pas partir comme des voleurs. D'abord, on ne va pas partir au milieu de la nuit. Enfin, il parle au milieu de la nuit, mais comme on a vu, il fait plein jour, mais c'est la nuit. Sur les horloges égyptiennes, c'est encore marqué la nuit. OK. Mais qu'est-ce qu'il dit aussi? Il dit, mais on ne partira pas tant que tu n'auras pas déclaré, tu n'auras pas écrit que tu libères les esclaves. Et Paro ne voulait pas écrire. Mon cher dit, on n'est pas pressé. Hein. Alors Paro, il dit, ah, si, vous partez. Alors tu écris. Il a écrit, moi, Paro, Melech Misraïm, je déclare que tous mes esclaves hébreux sont libres. Comme ça, ils sont vraiment sortis libres. Tant qu'il n'avait pas écrit ça, on ne travaillait pas, mais on était quand même toujours esclaves. Si Hachem ne nous avait pas sortis, dans la sortie d'Égypte, il n'y a pas seulement le fait que physiquement on est sorti d'Égypte. On est aussi sorti juridiquement. On est sorti avec un écrit, avec un guet de libération des esclaves. Un écrit qui permet, qui est l'écrit qu'on donne, que quelqu'un donnait s'il avait un esclave et qu'il voulait le libérer, il devait lui écrire un document de libération. Alors, on a eu un tel document de libération écrit par Paro sur l'ordre de Moshe. Mais on est de nouveau, ils ont dû attendre, c'est de nouveau la promesse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des promesses dont on ne voit pas la réalisation, alors ça correspond à quel Shakai. Et des promesses dont on te dit, on voit des morceaux de la réalisation, on voit les signes qu'Hachem et le fait qu'il travaille plus, etc. Donc on n'est pas encore, mais on est dans la phase. Là, cette partie-là, il y a un processus dont on peut penser qu'il va effectivement aboutir à la libération. Mais vous voyez, malgré le fait qu'il y a un processus, un an de manifestation de la puissance d'Hachem. Mais d'accord, tu leur as envoyé la peste d'animaux, tu leur as envoyé l'eau du Nil qui est changée en sang, etc. Mais on est toujours là, nous. On est toujours esclaves. Il y a 4/5 du peuple qui dit, OK, on ne va pas suivre. Parce que la promesse, c'est, vous allez sortir. Mais qu'est-ce qui va se passer après? C'est pas dit, hein. Hachem dit, je vous amènerai. Je dois aussi réaliser la promesse que j'ai faite de vous donner la terre. Donc, quand ils sont sortis d'Égypte, il faut encore aller en Eretz Israël pour aller recevoir la terre. Au départ, c'était une histoire de quelques jours. C'est pas loin de l'Égypte à la terre d'Israël. Bon, alors on n'a pas pris le chemin le plus court parce que il aurait fallu passer chez les Philistins et on aurait dû faire la guerre. Et Hachem pensait que les Bnei Israël n'auraient peut-être pas la force de faire la guerre. Donc il n'a pas voulu les tenter. Donc on a pris un long chemin. Et même le long chemin n'était pas si long que cela. Et le chemin, il ne devait pas prendre 40 ans. Il a pris 40 ans pour d'autres raisons. Il a pris 40 ans parce que parce qu'il y a eu le veau d'or, parce qu'il y a eu les explorateurs, etc. Mais ça se fait déjà avec le nom divin tétragramme. Tout le processus se fait, processus qui est la réalisation de la promesse. Je vous ai donné cette terre, je vous donne la terre, Hachem va nous amener dans cette terre. C'est la promesse d'une terre. Et quand on va arriver sur cette terre, ben, elle est occupée. Donc Hachem nous a promis une terre qui est occupée. C'est quoi cette promesse? Quand les Bnei Israël arrivent là-bas, il faut encore faire la guerre. 7 ans de guerre, ouais. 7 ans de guerre pour récupérer la terre qu'Hachem avait promise. Il y a de quoi désespérer, non? Alors, c'est vrai que les guerres, elles se passent relativement bien. En tout cas, la plupart. Mais c'est des guerres quand même. Donc, à chaque fois, ça n'arrête pas de demander de la confiance. Toujours un problème de confiance. Mais le problème, c'est que la durée en question, elle dépend de nous. Elle dépend de notre conduite. Donc même si au fond de nous-mêmes, on a confiance, mais si on ne se conduit pas de façon à mériter la chose, ben on ne l'a pas. Et donc ça pourrait ébranler la confiance. On dit, on le chante, Afalpi, bien que ça dure, alors j'ai confiance. Nimamin, j'ai Emouna. C'est quoi la confiance? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut avoir confiance? Avraham Avinu, il a confiance. Qu'est-ce qu'il a vu? Alors, il a vu qu'il est. Ben, il a confiance avant d'être jeté dans la fournaise. Et sa émouna, elle grandit. La émouna, c'est pas 1 ou 0. Il y a des degrés d'émouna, des degrés de confiance. Dans la vie, vous faites confiance à X, Y ou Z. Vous leur faites confiance jusqu'à un certain point. Bon, vous pouvez vous demander, voilà, ces personnes auxquelles je fais confiance, jusqu'à combien je leur fais confiance? Si c'est de l'argent, ben alors voilà, je fais confiance, je lui prête son problème, je lui prête 100. Est-ce que ouais, je lui prêterai peut-être pas 1 000. Peut-être je lui prêterai 1 000, mais pas 10 000. Peut-être je lui prêterai de l'argent, mais je ne confierai pas mes enfants. Etc. C'est des degrés. Hachem demande une confiance entière. Faites-moi confiance. Alors Hachem envoie dès le départ, il envoie des signes qui vont fortifier la confiance. Les Makot, c'est fait pour sanctionner les Égyptiens, mais c'est aussi pour nous. Les makot, elles ne sont pas que pour ça, elles sont pour construire notre confiance en Hachem. Construire la confiance qu'on a dans la puissance d'Hachem. Et Hachem nous aide en manifestant clairement sa puissance comme on dit, sur terre, dans les airs et dans la mer. Bon, les makot, ils construisent. Dans le processus, il y a des éléments de confiance qui sont donnés au fur et à mesure. Et dans toute notre histoire, il y a des moments où Hachem envoie des signaux qui montrent qu'il s'occupe de nous, il nous aime. Il y a d'autres moments où on dit, mais est-ce qu'il continue, est-ce qu'il nous aime toujours? Parce que certaines fois, on s'est conduit de telle sorte qu'on ne devient vraiment pas du tout aimable. Et malgré tout, Hachem dit, malgré tout, l'homme est astime. Je n'ai pas été dégoûté par eux, bien qu'ils se conduisent de façon dégoûtante. Et j'ai décidé que je ne les détruisais pas. Certains cas, si Hachem dit malgré tout je ne les détruirai pas, ça veut dire qu'on mérite d'être détruit en fait. Sinon il n'a pas besoin de dire pourquoi il nous détruirait. Si. On mériterait d'être détruit. Et Hachem dit non, je ne les détruirai quand même pas. Et on voit qu'effectivement, il y a des tas de situations dans lesquelles on a failli être détruit, on n'a pas été complètement détruit. Et on a même pu remonter. Mais on n'arrête pas d'être détruit. Le clan d'Israël, s'il n'avait pas perdu tellement de gens au cours de son histoire, on serait des centaines de millions. Si on s'était développé normalement. On est un peuple très vieux. Donc normalement, si on s'était développé normalement, on devrait, pas si on a fait de la concurrence aux Indiens ou aux Chinois, mais on devrait être pas mal placé quand même. Et on a perdu tout ce monde-là en chemin. Par conversion forcée, par conversion volontaire, par assimilation sans. L'assimilation qu'il y a aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a même de l'assimilation en Eretz Israël. Nombre de mariages entre Israéliens et Palestiniens, c'est un phénomène d'assimilation, de perte pour le peuple juif. Donc tout ça, c'est dit, disons, de façon très concise, ici, dans ces quelques versets qui parlent de cette phase de promesse, une phase nécessaire, absolument nécessaire. Le Ramban, il explique Dans le passage, c'est écrit Venez, le Ramban, il dit Amar Elohim le Moshe, nirait-il à votre bekoar? Il a dit Asherani, Chodet bo amazalot. Je me suis manifesté au Havot avec une anaga dans laquelle je suis Chodet et à Mazalot. Ça veut dire en fait que Akadosh Baruch Hu, il bouleverse l'ordre des planètes. C'est-à-dire, j'ai fait toutes sortes de choses complètement miraculeuses. Et le nom divin qui dit aussi ces choses miraculeuses, c'est El Shaddai. Comme ça que je me suis montré au Havot. C'est-à-dire, mais mon nom de Yud-Kevav-Ké, je l'aurais pas montré. C'est-à-dire que j'ai pas créé des nouvelles choses. C'est pas comme ça. Avec les Avot, c'est pas comme ça que je me conduisais. Donc tu peux leur dire maintenant Ani Hashem, et tu peux leur dire que Pam Acheret Hashem Agadol. Bon, ils vont voir mon grand nom. Grand nom, ce tétragramme. Ils vont à Ni, Osei, Maem, Lafri, je vais faire des choses extraordinaires pour eux. Veuillez d'où qui a Ni Hachem Osekol. Et ils sauront que moi, je suis tout-puissant. Ça veut dire, c'est maintenant, depuis la nouvelle époque où il y a des miracles, comme ceux des Makot et de Kriyat Yamsouf, etc. Où le bâton va devenir serpent, le serpent va redevenir bâton, et en tant que bâton, il va avaler les serpents des Égyptiens. C'est-à-dire, je vais manifester que je peux casser les lois de la nature. Les lois de la nature, c'est bon, c'est des lois qui sont valables pour tout le monde, mais pour le clan Israël, je peux briser les lois de la nature. Et ça, c'est depuis le... Ça commence avec Moshe. Mais pour les Avot, je n'ai pas brisé complètement les lois de la nature. Des choses locales, mais pas. Alors le Ramban dit Alderech Haemet. Le Ramban dit Alderech Haemet, c'est Alpi Kabbalah. Après, c'est un Kabbal. Ba Katouv, Ipshuto, Umashmao. Le verset, il faut l'entendre tel qu'il est écrit, presque au sens obliterateur. Yomar, Ani Hashem, Niretilaem, au Avot, je me suis donné à voir ce qu'il appelle Baspaklaria, Shel Kel Shakai, avec la lumière de Kel Shakai, c'est-à-dire ce qu'il pouvait voir, c'est avec une certaine lumière, un certain type de lumière. Comme c'est Bemaré, Lav, et Vada. Voilà. Je me suis donné à connaître en me montrant à eux. Mais moi, moi-même, Ani Hashem, l'onodatilaï. Shelon istaklu baspaklaria meira, shi duoti. Ketam asher yedu Hashem panim el panim. Ça veut dire, la façon dont la Shrina a été perçue par les Avot, c'est la Shrina, c'est donner à voir. Va'era. La chez Moshe Rabbeinu, c'est Yedia, la connaissance. Yado Hashem Panim El Panim. Hashem a connu Moshe Rabbeinu, donc, comment on dit, visage face à face, quoi, visage à visage. C'est-à-dire, de façon claire et sans ridot, c'est-à-dire sans énigmes, sans ramazim, sans allusion, etc. Il fallait faire tout un travail pour. Ah, ça veut dire comme ça. Non, chez Moshe Rabbeinu, c'était direct, tel quel. Hachem demande au prophète Yirmiya, il lui demande, Ma taroé, qu'est-ce que tu vois? Et il dit, je vois une marmite qui est gonflée comme ça. Hachem lui dit, t'as bien vu. C'est évidemment pas que Hachem lui a montré une marmite sur le feu à Yirmiya. Mais il lui a montré, il a une vision prophétique que lui devait traduire. Il devait traduire dans le langage des hommes, qu'est-ce qu'il a vu? Dans la Gemara, dans Yevamot, c'est marqué que le Navi Yeshaya, il a dit, Va'ere et Hashem Yoshev al kisei Rom Venissa. J'ai vu Hachem sur un trône élevé, très haut. Et la Gemara, elle demande, qu'est-ce qu'il a vu? Il n'y a rien à voir. C'est marqué, Lo irani Adam v'chai. Hachem dit, l'homme ne peut pas me, comme Moshe a demandé à voir, alors Hachem lui a dit, on ne peut pas être à la fois vivant et me voir. La Gemara répond, Kanbas Paklaria Meira. Voir en face à face, c'est pas possible. Complètement. Lo irani Adam Vachai. Et pour Yeshaya, c'est Bas Paklaria Sheena Meira. C'est-à-dire, en fait, c'est quelque chose qui rayonne pas vraiment par soi-même. Si vous voulez, c'est comme si tu vois la lumière d'une planète. Ça ne vient pas de la planète. Voyez, la lumière de la Lune, elle ne vient pas de la Lune. C'est-à-dire, ce n'est pas la Lune qui a produit la lumière en question. Je vois bien la Lune, on voit bien la Lune. Et si je vois un moment la Lune, je peux très bien penser que c'est elle qui rayonne. Quand je verrai qu'il y a des moments où on la voit, non, on ne la voit pas, etc. C'est marqué, Va'era et Hachem. J'ai vu Hachem. De façon claire. Ça, c'est pas possible. La claque maradine, c'est pas possible. Mais ben, c'est pas clair, Sheena Meira, c'est-à-dire avec un peu de flou, un peu de nuage devant la. Devant la lune, quoi. Alors, ça, oui, ça, on peut voir. Ça, c'est la différence entre Moshe et les Avot. La prophétie de Moshe est bien plus haute que la prophétie des Avot. Lui, il a vu clairement. Les Avot, ils ont vu du flou un peu. Alors, le Ramban dit, ça veut dire que, en fait, avec les Avot, Akadosh Baruch Hu, il y a eu dévoilement de la présence divine pour eux, et la parole qui leur a été adressée, ça s'appelle Din Rafa, c'est-à-dire, c'est un dibour, c'est une parole dure, mais légère. Hein. Rafa, ça veut dire faible, quoi. C'est comme ça qu'il s'est conduit avec eux. Avec Moshe Rabbeinu, c'est Veivada. Il s'est donné à connaître. C'est Bemidat HaRachamim. C'est Beshmo HaGadol, avec son grand nom, c'est-à-dire avec le tétragramme. C'est-à-dire la nevoah et la hanaga, la prophétie et la direction du monde se correspondent. Quand la prophétie est à un niveau de Aspa Claria Shena Meira, c'est-à-dire c'est pas très lumineux, alors la façon de gouverner le monde, la Hashgacha, la providence, si vous voulez, elle se fait par Nissim Nistarim, avec des miracles, mais qui sont cachés, c'est-à-dire des miracles qui ne se donnent pas directement comme miracle. Quand la prophétie, elle est Aspa Claria Meira, c'est lumineux, comme chez Moshe Rabbeinu, alors la gouvernance, c'est avec des miracles visibles. La manne de Berach el Myriam, etc. Passage de la mer. Alors, ce n'est pas seulement la prophétie, donc. C'est toute la façon de gouverner le monde si l'homme a un grand dévoilement de confiance en quelque sorte. Il a vraiment confiance au fond de lui-même. Alors, la façon de se conduire avec lui, elle sera encore plus claire. Plus sa émouna est cachée, en quelque sorte, moins sa, si vous préférez, moins sa émouna est évidente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment, il y croit, mais pas ça de... Le premier exemple qu'il y a sur ce problème de mesurer la Emouna, c'est chez Noach. Vous vous souvenez? Rashi dit Noach miktane Amanaya. Noach, il était un peu faiblard dans la confiance. Ouais, où est-ce qu'on a vu? Ce bonhomme, il a construit sous les moqueries de tous les gens autour de lui, il a construit l'arche. Il faisait confiance à Hachem. Hachem lui a dit, à un moment donné, Hachem lui dit, entre dans l'arche. Donc non. Ouais, le baboule va commencer. Il n'est pas entré. Il est entré quand les premières gouttes sont tombées. Ils disent, c'est pas terrible, ça, Emouna. Bon, il a eu besoin de voir que il commence à pleuvoir. Ah ouais, non, c'est vraiment, il vient vraiment, ce Maboul. Alors je rentre. Mais quand Hachem lui a dit rentre alors qu'il pleuvait pas du tout, il n'est pas entré. Alors ça s'appelle qu'il était parmi les gens qui sont petits en confiance. Confiance par rapport à Hachem. Alors, c'est comme ça que le Rambam comprend. La Tochacha qu'Hachem a faite à Moshe Rabbeinu, la remontrance qu'il a faite à Moshe Rabbeinu, il me dit, les Avot, leur degré de prophétie était largement inférieur au tien. Eux, ils n'étaient qu'au niveau qu'El Shaddai. Et ils m'ont fait confiance, eux. Et toi, d'un degré de Emouna bien plus élevé, de Nevoa bien plus élevé, et tu ne m'as pas fait confiance. C'est en tant que manque de confiance que Moshe est sanctionné. Ce n'est pas parce qu'il a parlé comme ci ou comme ça. Mais voilà, dans ce qu'il dit, c'est, ben, il n'y a pas de confiance du tout. Il fait comme si Hachem aurait dû les sauver tout de suite. Vata, et toi, tu ne les as pas sauvés. Moi, tu m'as envoyé, et c'est comme s'il disait, ben voilà, je lui ai dit à Paro, il réagit mal, tu aurais dû tout de suite envoyer la bombe atomique est terminée. Non. Encore, tu as laissé que les Bnei Israël, ils souffrent encore plus. Ils étaient déjà au 36e dessous, il faut attendre, soit vraiment au 49e, quoi. On ne sait pas. Mon cher Abel, il pense peut-être que, si vous voulez en ces termes-là, que si Hachem les avait sortis à ce moment-là, peut-être qu'il y aurait eu 50% de gens qui viennent. Et pas seulement 20%. C'est peut-être vrai d'ailleurs. Mais l'important, ce n'était pas de s'en sortir 50%. 50% tiède. Vous voulez 20% qui était suffisamment chaud. J'ai fait une promesse que j'allais leur donner cette terre et je ne l'ai encore pas accomplie. Mais quand ils sortent d'Égypte, ils ne l'ont toujours pas accomplie. Hein. Ils sont seulement en chemin. Même si dans la version sans les fautes des Bnei Israël, ben c'était pas non plus immédiat. S'il a pu sortir les Bnei Israël de Mitzrayim, il pouvait aussi les parachuter tout de suite en Eretz Israël. Hein. Il n'a pas fait ça. Moshe est allé, il a fait ce qu'Hachem lui a dit. Les Bnei Israël, ils n'ont pas pu. Ils ne pouvaient pas écouter Moshe. Ils avaient le souffle court et ils étaient éreintés par le travail qu'ils faisaient. Quand tu en es à chercher ton souffle, tu ne peux pas penser. Situation où toute ton énergie, toute ton attention allait à chercher ton souffle. C'est ce que Paro voulait. C'était plus ou moins réussi au départ. Ils étaient incapables d'entendre quoi que ce soit. Voilà, ça a été là.